Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, à compter d'aujourd'hui, Il était une fois un livre recevra deux invités par semaine. Donc un invité du matin et un ou une invitée de l'après-midi. Et ce matin, j'ai le plaisir, et tous les matins de cette semaine, de recevoir Sophia Tahi, qui est chanteuse professionnelle et qui va nous faire découvrir ou redécouvrir une grande artiste américaine qui a traversé un demi-siècle de musique. Je veux parler de Nina Simone. Bonjour Sophia Tahi.
Bonjour Nathalie.
Donc, vous en avez fait un spectacle. Comment avez-vous rencontré Nina Simone?
Alors moi,
Parce que c'est quand même pas votre génération.
Bah pourtant, c'est ma contemporaine aussi. Pour moi, elle a toujours été présente, en fait. Moi, je l'ai rencontrée, j'avais 7 ans, en 1986, par une publicité de parfum, dont je ne nommerai pas le nom, avec un titre qui s'appelait My Baby Just Care. Et j'étais fascinée par ce titre, d'abord parce qu'on l'entendait régulièrement à la télévision via la publicité, et puis après parce que comme ça a été un succès très rapidement, ils ont décidé d'en faire un clip et de le rééditer. Et le clip, il passait au top 50 à l'époque. Et le clip me fascinait. Les pâtes à modeler, noir et blanc... c'était vraiment adapté, je pense, pour un enfant. Et moi, ça m'a fascinée. Et je sais pas, son jeu de piano, puis la voix. La voix était très différente de tout ce qu'on pouvait entendre à l'époque. C'était une voix presque masculine. Ça m'a tout de suite attiré l'oreille. Et depuis, elle a toujours été présente, en fait.
Jusqu'à aujourd'hui, où vous en faites le personnage principal d'un spectacle que vous appelez causerie autour de Nina Simone.
Alors en fait, il y a deux spectacles en fait. Le premier spectacle, c'est un quartet sur scène qui s'appelle Sophia Tahi, Nina Simone's Songs, les chansons de Nina Simone. Là, on est basse, batterie, clavier et moi au chant. Et on a choisi une quinzaine de morceaux de Miss Nina Simone que l'on a réarrangés et complètement réinterprétés. Parce que c'est impossible de copier une artiste comme ça. Donc, pour reprendre ce répertoire, alors il faut le réinterpréter par rapport à ce qui nous inspire, en fait. Et pas faire le même morceau, mais vraiment, vraiment réinterpréter.
Pas faire un copier-coller.
Pas faire un copier-coller, le prendre et le manger, le digérer et le faire grandir, en fait. C'est une question de transmission. Et en fait, c'est un spectacle qui dure à peu près 1h15, 1h30, où là, on est vraiment en mode concert simple. Mais en fait, très vite, moi, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi de faire juste 1 heure. Je suis très heureuse de chanter pendant 1h30 Nina Simone, mais j'avais besoin d'aller plus loin dans mon propos. Or, les gens, quand ils viennent voir un concert, ils viennent pas forcément voir quelqu'un qui fait 10-15 minutes de monologue entre chaque morceau. Donc, a germé l'idée de cette causerie, qui est une causerie piano-voix, où là, je développe plus qui est Nina Simone, quel était son contexte politique, social, son influence sur le paysage musical afro-américain, et qu'est-ce qu'elle nous a transmis, pourquoi est-ce que moi, elle me touche. Donc, ça a donné naissance à deux spectacles, en fait. Enfin, je dirais plus précisément un spectacle, Nina Simone Songs, et une causerie qui peut se faire dans tous les lieux, café, librairie, médiathèque, etc., etc. Donc là, on est moins sur un mode de spectacle, justement, puisque l'idée, c'est vraiment de raconter sa vie, ce qui m'a inspirée, et puis aussi d'avoir un échange avec le public, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a entendu une anecdote, ou que moi, je ne suis pas au courant, ou qui l'ont... J'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont vu en concert à Rennes, qui m'ont dit « si, ça... bah. » Et donc, ça m'a permis d'aller plus loin dans mon propos. Parce que je pense qu'une artiste comme Nina Simone, juste aborder le côté musical, c'est juste impossible. Parce qu'il y a trop d'implications culturelles, sociales, identitaires. Et puis, il y a cette idée de création d'une culture qui, moi, me fascine complètement.
Donc, c'est pour ça que vous êtes là cette semaine. Vous allez pouvoir nous faire redécouvrir ou découvrir Nina Simone pour les plus jeunes qui ne la connaissent pas forcément. Donc, Nina Simone, déjà l'enfant prodige.
Oui.
Puisque déjà toute petite, elle était déjà... À 2 ans et demi, elle pouvait reproduire.
Ah oui. Oui, elle avait l'oreille absolue. Sa mère... La musique était très présente dans sa famille. Sa mère était pasteur méthodiste et donc chantait énormément de cantiques à la maison. Et déjà à 2 ans d'oreille, elle retrouvait les notes sur le clavier. Donc là, on est face à un génie. On est face à quelqu'un comme les plus grands, comme Mozart, comme Beethoven. Là déjà, ça pose un peu le décor déjà en termes de... Et puis elle a cette chance...
De don et de capacité.
De don et de capacité. À 5 ans, elle accompagne sa mère. C'est elle qui accompagne les chorales de l'église de sa mère, qui a l'air de s'être très rapidement rendu compte que une petite de 5 ans qui joue de cette manière-là au piano, ça peut que faire grandir son cheptel, sa chapelle, sa paroisse. Donc, dès l'âge de 5 ans, c'est elle qui accompagne les chorales de l'église. Et puis, elle joue constamment. Et en parallèle de ça, parce que elle aurait pu avoir juste l'oreille, mais à côté de ça, elle a cette dimension rythmique. Et en ayant travaillé son répertoire, je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a attrapé au-delà des mélodies magnifiques, etc. C'est la puissance rythmique de cette femme est juste incroyable. Et ça, elle l'a appris parce que dans la ville où elle est née, à Tryon, il y avait différentes paroisses. Il y avait les méthodistes, il y avait les pentecôtistes, il y avait les chrétiens catholiques, enfin, toutes les branches protestantes et catholiques qui ont pu se développer aux États-Unis. Et les pentecôtistes sont connus pour faire ce que l'on appelle comme cérémonie des revivals. Les revivals, c'est on dirait que ligne droite de la tradition africaine, le principe de rentrer en transe au contact de la spiritualité, au contact de Dieu. Et eux ont cette dimension extrêmement rythmique. Or, l'église pentecôtiste était juste en face de l'église méthodiste de sa mère, donc elle allait d'une église à l'autre, et là, dans l'église pentecôtiste, elle s'est rendue compte de la puissance du rythme et de la puissance de la musique et du lien qu'il peut y avoir entre quelque chose de très humain et quelque chose de très spirituel. Et ça, elle a gardé, et après, elle l'a développé, et c'est une des choses qui, moi, m'a le plus interpellée, musicalement parlant, c'est la puissance rythmique, alliée à ça, à une oreille parfaite, absolue, et à une éducation extrêmement harmonique, puisqu'elle a étudié le classique très jeune et pendant des années, et presque toute sa vie. Et là, je trouve que c'est le parfait alliage, en fait, entre deux mondes, entre l'Afrique... Et entre l'Europe.
Concertiste, c'est ce qu'elle voulait devenir. Elle était très, très admirative de la musique de Bach. Mmh. Et elle dit effectivement, Bach, c'est la pureté, c'est la rigueur. Quand les musiques de gospel, par exemple, sont beaucoup plus spirituelles. Et c'est vrai que l'une et l'autre... Pour elle, se complétait plus qu'elle ne s'opposait, quoi.
Complètement. Et c'est ça qui est complètement magique. Et je pense que c'est...
Elle a fait un mix des deux dans ses interprétations.
C'est ça. Elle a mis dans sa musique les deux mondes. Et chaque partie de ces mondes. C'est-à-dire que dans sa musique, y a énormément de classiques dans son jeu, surtout dans les premiers albums. Sur des titres comme Love Me or Leave Me, les solos, on sent bien toute la dimension classique de son jeu de piano, alliée à ça avec du folk, du blues, du gospel, de la soul, tout ce qui fait la musique noire américaine, en fait. Et moi, je trouve que c'est... Mais c'est son éducation aussi qui...
Alors, éducation quand même très, très étonnante, puisque faut pas oublier que Nina Simone est née en 1933.
Oui.
Donc, quand elle avait 10 ans, c'était les années 40, les États-Unis étaient quand même encore très... la ségrégation était encore présente. Enfin, de fait, les Noirs, les Blancs, elle qui était noire... dans ce monde de concertistes blancs, elle devait détonner.
Exactement. C'est un peu... sa trajectoire est étonnante, parce qu'elle est extraordinaire de ce mélange, de son intégration dans le monde des Blancs. C'est un peu comme si, quand un esclave, en 1850, savait lire et écrire. C'était exceptionnel. Nina Simone, elle est née d'abord de ses propres dires, si on s'en tient à ses autobiographies, parce qu'elle en a sorti deux. Moi, celui qui me donne mes références, c'est « I put a spell on you ». C'est une de ses autobiographies. Elle explique que Tryon, c'est en terre ségrégée, mais que c'est très ouvert. C'est très léger, les populations noires et blanches se mélangent. Les communautés, les paroisses d'églises blanches vont un dimanche dans les paroisses des communautés noires et vice-versa. L'été, il y a des jeux qui sont organisés, pique-niques organisés. Donc elle est dans une ville déjà avec un contexte particulier. Ensuite, sa mère, parce qu'il fallait bien faire survivre la famille, sa mère fait des ménages chez une femme blanche de la ville, chez une notable de la ville, qui est complètement fan de petite Nina Simone, alors qui à l'époque s'appelle Eunice, et pas encore Nina, qui est complètement médusée par cette gamine de 5 ans qui joue au piano de manière extraordinaire et qui explique à sa mère, moi je pense que ce serait bien qu'elle prenne des cours pour évoluer, et moi je connais quelqu'un qui peut lui donner des cours. Et entre dans la vie de la petite Eunice Miss Masinovic, Muriel Masinovic, qui est blanche mais qui est, il me semble, d'origine anglaise, et qui, elle, n'a pas ce concept trop de ségrégation, et puis qui voit la petite Eunice juste comme une merveilleuse musicienne qui a toutes les capacités pour. Et c'est cette Madame Masinovic qui va lui enseigner tout ce qu'elle sait du piano, toute la partie classique, qui va lui faire découvrir Bach, Mozart, Beethoven, qui va lui faire découvrir le solfège, les harmonies, etc., etc., et puis la technique, de piano. Et donc, Nina, elle vit dans les deux mondes. Alors, il faut savoir que quand même, c'est une gamine qui n'a pas de vie. Elle est soit à l'école, soit elle bosse son piano. Donc, elle est soit dans sa communauté noire avec sa famille et ses petits camarades de classe, soit avec Masinovic en cours de piano, quoi, dans le monde des Blancs. Donc du coup, elle est très protégée de ce racisme, parce que par la communauté noire, elle est considérée comme un véritable petit messie, et par la communauté blanche comme une valeur ajoutée à la ville, en fait. T'as vu, nous, nos négros, jouent du piano, quoi. Et du coup, elle vit très protégée de ce racisme pendant les 10 premières années de sa vie, même si elle se rend bien compte qu'il y a quand même des choses un peu bizarres, qu'il y a des écriteaux réservés aux gens de couleur ou réservés aux blancs, Et je pense que ça, c'est une des choses qui, moi, qui m'a beaucoup touchée quand j'ai découvert cette histoire. Elle se rend pas compte qu'elle est noire.
Qui vont la rendre noire quelque part après.
Exactement. Elle se rend pas compte qu'elle est noire. Elle se rend juste compte que elle fait du piano et que et ça, c'est une situation que moi j'ai pu vivre en tant que dans ma jeunesse et jusqu'à assez tard, parce que j'ai grandi moi dans une famille de blancs et complètement à part d'une communauté noire ou nord-africaine. Et pendant très longtemps, je ne me suis pas rendu compte que j'étais noire. Et du coup, quand j'ai lu ça, mais ça m'a fait un tel choc où je me suis dit, ah oui, je comprends exactement le sentiment. Et la première fois où elle se rend compte qu'il y a quand même un véritable problème, elle a 10 ans. Et en fait, elle elle a commencé le piano avec Miss Massinovitch à 6 ans, donc en 4 ans, elle a beaucoup appris. Et là, on commence à lui organiser des concerts pour montrer un petit peu à la communauté de la ville, de Tryon, ses progrès. Et arrive ce récital devant tous les notables de la ville, et ses parents sont assis au premier rang. Et un couple de blancs arrive un peu tard et demande aux parents de Nina Simone de déménager de place parce qu'il n'y a plus que deux places, il n'y a plus de place devant, et que leur place à eux en tant que blancs, bah, c'est d'être devant, et un couple noir, c'est d'être derrière. Et là, Miss Simone, elle n'a même pas réfléchi, elle s'est levée, elle a dit, moi, tant que mes parents ne sont pas assis au premier rang, je ne jouerai pas. Et là, on est quand même devant une prise de conscience ultra brutale de sa part, et à une réaction, mais littéralement épidermique, quoi. C'est je me lève, c'est non, quoi. C'est juste hors de question. Et je pense que ça, c'est sa première vraie... Alors...
Rébellion
et prise de conscience.
Et prise de conscience.
De, tiens, il y a quelque chose quand même qui est pas normal.
Donc ça, c'est le premier geste politique, on pourrait dire, de Nina Simone. Elle a 10 ans. Alors, je précise pour les auditeurs, donc cette semaine, il n'y aura pas de lecture après chaque entretien. J'ai fait le choix de vous faire écouter des chansons interprétées par Nina Simone. Et aujourd'hui, cette chanson, ce sera « I Love You, Porgy ». Donc, un de ses premiers succès, ou qui a fait ses premiers succès. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant de passer à l'écoute?
Alors, I Love You, Porgy, c'est un morceau déjà tiré d'un opéra de Gershwin. I Love You, Porgy, ça met en scène un quartier de Caroline du Nord, Catfish Row, un quartier noir. Et la love story de Porgy et de Bess. Alors Bess, elle est mariée avec un autre homme, noir aussi, qui n'a pas une vie super, qui vend de la drogue, qui prostitue des femmes, qui joue aux cartes. Et puis un soir, il tue quelqu'un et il disparaît. Et il laisse Bess à l'abandon dans son quartier de misère. Et le seul qui soutient Bess, c'est Porgy. Et Porgy and Bess, c'est leur chanson d'amour, en fait. Et c'est un titre que Nina Simone découvre quand elle est à Atlantic City, donc en 53-54, où elle commence à peine sa carrière sans se rendre compte qu'elle commence une carrière. Et elle découvre ça parce qu'elle, il faut savoir que toute sa jeunesse, ses musiques catholiques, religieuses, uniquement, parce que sa mère, elle considère tout le reste comme de la musique diabolique. Et donc, quand elle arrive à Atlantic City, elle s'émancipe un peu, elle découvre ce morceau. Et elle tombe amoureuse de ce morceau, elle décide de le réinterpréter. Et c'est un des premiers morceaux qu'elle va enregistrer sur son tout premier album, Friends... Nina Simone and Friends, il me semble. Et c'est ce titre-là qui va déclencher toute sa carrière, en fait, parce qu'il y a un DJ new-yorkais qui passe des titres à la radio, qui est plutôt en vogue, qui tombe amoureux de sa version et qui diffuse ce titre à longueur de deux semaines, plusieurs fois par jour, et sa carrière commence comme ça. Et c'est un titre qu'elle va chanter toute sa carrière. Tous les concerts qu'elle a fait, elle chante I Love You Porgy.
Eh bien, voilà, donc je vous laisse en compagnie de Nina Simone et de son titre I Love You Porgy. Quant à nous, Sophia, on se retrouve demain matin pour continuer à parler de Nina Simone.
Avec plaisir.
À demain.
À demain.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était un assez de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.